Première partie, les régimes inégalitaires dans l'histoire. Chapitre 1, les sociétés ternaires, l'inégalité trifonctionnelle. L'objectif des deux premières parties de ce livre est de placer l'histoire des régimes inégalitaires dans une perspective de longue durée. En particulier, nous allons tenter de mieux comprendre la complexité et la multiplicité des processus et trajectoires qui ont conduit des sociétés ternaires et esclavagistes anciennes au triomphe des sociétés de propriétaires et des sociétés coloniales post-esclavagistes au XIXe siècle. La première partie étudie notamment le cas des sociétés d'ordre européenne et leur transformation en sociétés de propriétaires. La deuxième partie examine celui des sociétés esclavagistes et coloniales, et la façon dont l'évolution des sociétés trifonctionnelles extra-européennes a été affectée par leur rencontre avec les puissances européennes. La troisième partie analysera ensuite la crise des sociétés de propriétaires et des sociétés coloniales au XXe siècle, sous les coups notamment des guerres mondiales et du défi communiste. Puis la quatrième partie étudiera les conditions de leur régénération et de leur possible transformation dans le monde post-colonial et néo-propriétariste de la fin du XXe et du début du XXIe siècle. La logique des trois fonctions, clergé, noblesse, tiers-État. Nous allons donc débuter cette enquête par l'étude de ce que je propose de nommer les sociétés ternaires. Ces dernières constituent la catégorie de régime inégalitaire la plus ancienne et la plus répandue dans l'histoire. Elles ont en outre laissé une empreinte durable sur le monde actuel et il est impossible d'examiner correctement les développements politico-idéologiques ultérieurs sans commencer par l'analyse de cette matrice originelle de l'inégalité sociale et de sa justification. Dans leur forme la plus simple, les sociétés ternaires se composent de trois groupes sociaux distincts, chacun remplissant des fonctions essentielles au service de l'ensemble de la communauté, et indispensable pour sa perpétuation, le clergé, la noblesse et le tiers-État. Le clergé est la classe religieuse et intellectuelle. Elle est chargée de la direction spirituelle de la communauté, de ses valeurs et de son éducation. Elle donne du sens à son histoire et son devenir, et lui fournit pour cela les normes et repères intellectuels et moraux nécessaires. La noblesse est la classe guerrière et militaire. Elle manie les armes et apporte la sécurité, la protection et la stabilité à l'ensemble de la société. Elle permet ainsi d'éviter que la communauté ne sombre dans le chaos permanent et le brigandage généralisé. Le tiers-État est la classe laborieuse et roturière. Elle regroupe le reste de la société, à commencer par les paysans, artisans et commerçants. Par son travail, elle permet à l'ensemble de la communauté de se nourrir, se vêtir et se reproduire. On pourrait aussi parler de société trifonctionnelle, pour désigner ce type historique, qui en pratique prend le plus souvent des formes plus complexes et diversifiées, avec de multiples sous-classes à l'intérieur de chaque groupe, mais dont le schéma général de justification et parfois aussi d'organisation politique formelle repose sur les trois fonctions. On retrouve ce type général d'organisation sociale, non seulement dans toute l'Europe chrétienne jusqu'à la Révolution française, mais aussi dans de très nombreuses sociétés extra-européennes et dans la plupart des religions, en particulier dans le cadre de l'hindouisme et de l'islam chiite et sunnite, suivant des modalités différentes. Des anthropologues ont fait naguère l'hypothèse, contestée, selon laquelle les systèmes de tripartition sociale observés en Europe et en Inde avaient une origine indo-européenne commune, décelable dans les mythologies et les structures linguistiques. Bien que fort incomplète, les connaissances actuelles laissent à penser que ce type d'organisation en trois classes est en réalité beaucoup plus général et que la thèse de l'origine unique ne tient guère. Le schéma ternaire se retrouve dans la quasi-totalité des sociétés anciennes et dans toutes les parties du monde jusqu'en Extrême-Orient, en Chine et au Japon, avec toutefois des variations substantielles qu'il convient d'étudier, car elles sont au fond plus intéressantes que les similitudes superficielles. L'émerveillement face à ce qui est intangible ou supposé tel traduit souvent un certain conservatisme politique et social, alors que la réalité historique est toujours changeante et multiple, pleine de potentialités imprévues, de bricolages institutionnels surprenants et précaires, de compromis instables et de bifurcations inachevées. Pour comprendre cette réalité, et aussi pour se préparer aux bifurcations à venir, mieux vaut analyser les conditions du changement socio-historique, au moins autant que celles de la conservation. Cela vaut pour les sociétés ternaires comme pour les autres. Pour progresser dans cette analyse, il est utile de comparer les dynamiques longues observées dans des contextes très différents, en particulier en Europe et en Inde, et plus généralement dans une perspective comparative et transnationale. C'est ce que nous allons tenter de faire dans ce chapitre et les suivants. Les sociétés ternaires et la formation de l'État moderne. Les sociétés ternaires se distinguent des formes historiques ultérieures par deux caractéristiques essentielles qui sont d'ailleurs étroitement liées l'une à l'autre. D'une part, le schéma trifonctionnel de justification de l'inégalité, et d'autre part, le fait qu'il s'agit de sociétés anciennes qui précèdent la formation de l'État centralisé moderne et dans lesquelles le pouvoir inséparablement politique et économique était initialement exercé au niveau local, sur un territoire le plus souvent de faible dimension, parfois avec des liens relativement lâches avec un pouvoir central monarchique ou impérial plus ou moins lointain. L'ordre social était structuré autour de quelques institutions clés. Le village, la communauté rurale, le château, le fort, l'église, le temple, le monastère, de façon fortement décentralisée, avec une coordination limitée entre les différents territoires et lieux de pouvoir. Ces derniers étaient le plus souvent mal reliés les uns aux autres, compte tenu notamment de la faiblesse des moyens de transport. Cette décentralisation du pouvoir n'empêche évidemment pas la brutalité et la domination dans les rapports sociaux, mais cela se produit suivant des modalités et des configurations distinctes de celles rencontrées avec les structures étatiques centralisées de l'âge moderne. Concrètement, dans les sociétés ternaires traditionnelles, les droits de propriété et les fonctions régaliennes sont inextricablement enchevêtrés dans le cadre des relations de pouvoir au niveau local. Les deux classes dirigeantes, le clergé et la noblesse, sont certes des classes possédantes. En particulier, elles détiennent en général la majorité des terres agricoles, parfois la quasi-totalité, possession qui, dans toutes les sociétés rurales, constitue le socle du pouvoir économique et politique. Dans le cas du clergé, la détention s'organise fréquemment par l'intermédiaire des multiples formes d'institutions ecclésiastiques, églises, temples, évêchés, fondations pieuses, monastères, etc., observées dans les différentes religions, en particulier dans le christianisme, l'hindouisme et l'islam. Dans le cas de la noblesse, la possession s'apparente davantage à une détention au niveau individuel, ou plutôt au niveau du lignage et du titre nobiliaire, parfois dans le cadre d'indivisions familiales ou de quasi-fondations visant à éviter la dilapidation du patrimoine et du rang. Dans tous les cas, le point important est que ces droits de propriété du clergé et de la noblesse vont de pair avec des pouvoirs régaliens essentiels, notamment en termes de maintien de l'ordre et de pouvoirs policiers et militaires. C'est l'apanage en principe de la noblesse guerrière, mais il peut également être exercé au nom d'un seigneur ecclésiastique, ainsi qu'en termes de pouvoir juridictionnel. La justice est généralement rendue au nom du seigneur du lieu, là aussi noble ou religieux. Dans l'Europe médiévale, aussi bien que dans l'Inde précoloniale, le seigneur français comme le landlord anglais, l'évêque espagnol comme le brahman et le rajput indien, et leurs équivalents dans d'autres contextes, sont en même temps les maîtres de la terre et les maîtres des personnes qui travaillent et vivent sur la terre. Ils sont dotés à la fois de droits de propriété et de droits régaliens, suivant des modalités variées et changeantes. Que le seigneur soit issu de la classe guerrière ou cléricale, que l'on étudie l'Europe, l'Inde ou d'autres aires géographiques, on constate ainsi dans toutes les sociétés ternaires anciennes l'importance et l'imbrication extrême de ces relations de pouvoir au niveau local. Ceci prend parfois la forme extrême du travail forcé et du servage, ce qui implique une limitation stricte du droit de mobilité de tout ou partie de la classe des travailleurs. Ces derniers ne peuvent alors plus quitter leur territoire et partir travailler ailleurs. En ce sens, ils appartiennent aux seigneurs nobles ou religieux, même s'il s'agit d'une relation de possession différente de celle que nous étudierons dans le chapitre consacré aux sociétés esclavagistes. Plus généralement, cela peut prendre des formes d'encadrement moins extrêmes et potentiellement plus bienveillantes, mais bien réelles, et qui peuvent aboutir à la formation de quasi-États au niveau local, dirigés par le clergé et la noblesse, avec un partage des rôles variables suivant les cas. Outre le pouvoir de police et de justice, les formes d'encadrement les plus importantes dans les sociétés ternaires traditionnelles comprennent notamment le contrôle et l'enregistrement des mariages, des naissances et des décès. Il s'agit d'une fonction essentielle pour la perpétuation et la régulation de la communauté, étroitement liée aux cérémonies religieuses et aux règles concernant les alliances et les formes recommandées de la vie familiale, en particulier pour tout ce qui touche à la sexualité, au pouvoir paternel, au rôle des femmes et à l'éducation des enfants. Cette fonction est généralement l'apanage de la classe cléricale, et les registres correspondants sont tenus dans les églises et les temples des différentes religions concernées. Il faut aussi mentionner l'enregistrement des transactions et des contrats. Cette fonction joue un rôle central pour réguler l'activité économique et les relations de propriété, et elle peut être exercée par le seigneur noble ou religieux, généralement en lien avec l'exercice du pouvoir juridictionnel local, et le règlement des litiges civils, commerciaux et successoraux. D'autres fonctions et services collectifs peuvent également jouer un rôle important dans la société ternaire traditionnelle, comme l'enseignement et les soins médicaux, souvent rudimentaires, parfois plus élaborés, et certaines infrastructures collectives, moulins, ponts, routes, puits. Il est à noter que les pouvoirs régaliens, détenus par les deux premiers ordres des sociétés ternaires, clergé et noblesse, sont conçus comme la contrepartie naturelle des services qu'ils apportent au troisième ordre en termes de sécurité et de spiritualité, et plus généralement en termes de structuration de la communauté. Tout se tient dans la société trifonctionnelle. Chaque groupe prend place dans un ensemble de droits, de devoirs et de pouvoirs étroitement liés les uns aux autres au niveau local. Dans quelle mesure le développement de l'État centralisé moderne est-il à l'origine de la disparition des sociétés ternaires? Nous allons voir que les interactions entre ces deux processus politico-économiques fondamentaux sont en réalité plus complexes et ne peuvent être décrites de façon mécanique, unidirectionnelle ou déterministe. Dans certains cas, le schéma idéologique trifonctionnel peut même réussir à s'appuyer durablement sur des structures étatiques centralisées et à se redéfinir et se perpétuer dans ce nouveau cadre, au moins pour un temps. On pense par exemple à la Chambre des Lords britanniques, institution nobiliaire et cléricale directement issue du monde trifonctionnel médiéval, mais qui joua un rôle central dans le gouvernement du premier empire colonial mondial pendant la majeure partie du XIXe siècle et jusqu'au début du XXe siècle. On peut aussi citer le clergé chiite iranien, qui, avec la création du Conseil des gardiens de la Constitution et de l'Assemblée des experts, chambre élue mais réservée aux clercs et chargée notamment de la désignation du guide suprême, est parvenu à constitutionnaliser son rôle politique dominant avec la création de la République islamique à la fin du XXe siècle, régime largement inédit dans l'histoire et toujours en place en ce début de XXIe siècle. La délégitimation des sociétés ternaires entre révolution et colonisation. Il reste que la construction de l'État moderne tend naturellement à saper les fondements mêmes de l'ordre trifonctionnel et s'accompagne généralement du développement de formes idéologiques concurrentes. Par exemple, les idéologies propriétaristes, colonialistes ou communistes, qui finissent le plus souvent par remplacer et éradiquer purement et simplement l'idéologie ternaire comme l'idéologie dominante. À partir du moment où une structure étatique centralisée parvient à garantir la sécurité des personnes et des biens sur un territoire de grande taille, cela en mobilisant une administration et des moyens humains spécifiques, policiers, militaires, officiers, de moins en moins liés à l'ancienne noblesse guerrière, il est bien évident que c'est la légitimité même de la noblesse en tant que garante de l'ordre et de la sécurité qui s'en trouve durement éprouvée. De même, à partir du moment où se développent des processus et des institutions civiles, scolaires et universitaires, visant à éduquer et à produire des connaissances et des sagesses nouvelles, menée par de nouveaux réseaux d'enseignants, d'intellectuels, de médecins, de scientifiques et de philosophes, de moins en moins liés à l'ancienne classe cléricale, il ne fait guère de doute que c'est la légitimité même du clergé en tant que garante de la direction spirituelle de la communauté qui s'en trouve gravement remise en cause. De tels processus de délégitimation des anciennes classes guerrières et cléricales peuvent se dérouler de façon extrêmement graduelle et, dans certains cas, s'étaler sur plusieurs siècles. Dans de nombreux pays européens, par exemple au Royaume-Uni et en Suède, cas sur lesquels nous reviendrons, la transformation des sociétés d'ordres européennes en sociétés de propriétaires met en jeu une évolution très longue et progressive qui débute autour de 1500-1600, voire plus tôt, et ne s'achève qu'autour de 1900-1920. Et encore pas complètement, puisqu'il demeure des traces trifonctionnelles jusqu'à nos jours, ne serait-ce que sous la forme de l'institution monarchique, toujours présente dans un grand nombre d'États ouest européens, parfois avec des reliquats largement symboliques de pouvoir nobiliaire ou clérical, comme la Chambre des Lords britanniques. Il existe également des moments d'accélération brutale, quand des idéologies nouvelles et des structures étatiques appropriées agissent de concert pour transformer radicalement et consciemment l'organisation des sociétés ternaires anciennes. Nous analyserons en particulier le cas de la Révolution française, qui est le plus emblématique et aussi l'un des mieux documentés. À la suite de l'abolition des privilèges de la noblesse et du clergé, lors de la nuit du 4 août 1789, les assemblées révolutionnaires et leurs administrations et tribunaux durent donner un sens précis à ce terme. Il fallut opérer en peu de temps une démarcation stricte entre ce qui relevait aux yeux des législateurs révolutionnaires de l'exercice légitime du droit de propriété, y compris lorsque ce droit était exercé par un ex-privilégié et avait parfois été acquis et consolidé dans des conditions douteuses, et ce qui appartenait au monde ancien de l'appropriation illégitime de pouvoirs régaliens locaux, désormais domaine exclusif de l'État central. Cela n'a pas été sans peine, tant ces droits étaient en pratique inextricablement liés. Cette expérience permet ainsi de mieux saisir la spécificité des enchevêtrements de pouvoir et de droits qui caractérisent la société ternaire traditionnelle, et particulièrement la société d'ordres européennes. Nous nous pencherons également sur une séquence historique tout à fait différente mais tout aussi instructive, en examinant la façon dont l'État colonial britannique a entrepris de prendre la mesure et de transformer la structure trifonctionnelle en vigueur en Inde, notamment au travers des recensements des castes menés de 1871 à 1941. Il s'agit en quelque sorte du cas opposé à celui de la Révolution française. En Inde, une puissance étatique étrangère entreprend de reconfigurer une société ternaire ancienne et interrompt le processus autochtone de formation de l'État et de transformation sociale. La confrontation de ces deux expériences opposées, ainsi que l'examen d'autres transitions où se combinent logique post-ternaire et post-coloniale, comme en Chine, au Japon ou en Iran, nous permettra de mieux comprendre la diversité des trajectoires possibles et des mécanismes à l'œuvre. De l'actualité des sociétés ternaires. Avant d'aller plus loin, il me faut cependant répondre à une interrogation naturelle. Au-delà de leur intérêt historique, pourquoi faut-il étudier les sociétés ternaires? Certains pourraient être tentés de les négliger et de les renvoyer à un passé lointain, mal connu et peu documenté, et surtout peu pertinent pour la compréhension du monde moderne. Les différences statutaires strictes qui les caractérisent ne sont-elles pas aux antipodes de nos sociétés démocratiques et méritocratiques modernes qui prétendent se fonder sur l'égalité d'accès aux professions, la fluidité sociale et la mobilité intergénérationnelle? On aurait pourtant bien tort de commettre une telle erreur, pour au moins deux raisons. D'une part, la structure des inégalités dans les sociétés ternaires anciennes est moins radicalement éloignée de celles en vigueur dans les sociétés modernes que ce que l'on imagine parfois. D'autre part, et surtout, les conditions de la disparition des sociétés trifonctionnelles, extrêmement variables suivant les pays, les régions et les contextes religieux, coloniaux et post-coloniaux, ont laissé des traces profondes dans le monde contemporain. Tout d'abord, il faut insister sur le fait que même si la rigidité statutaire est la norme dans le schéma trifonctionnel, La mobilité entre classes n'est en réalité jamais totalement absente dans ces sociétés, qui se rapprochent sur ce point des sociétés modernes. Par exemple, nous allons voir que la taille relative des groupes cléricaux, nobles et roturiers, ainsi que l'étendue de leurs ressources, varie fortement dans le temps et suivant les pays, conséquence notamment de variations dans les règles d'admission et les stratégies d'alliance suivies par les groupes dominants, plus ou moins ouvertes ou fermées suivant les cas, et des institutions et rapports de force régulant les relations entre les groupes. Les deux classes dominantes, le clergé et la noblesse, regroupées au total à peine plus de 2% de la population adulte masculine en France à la fin de l'Ancien Régime, contre plus de 5% deux siècles plus tôt. Elles représentaient autour de 11% dans l'Espagne du XVIIIe siècle et plus de 10% pour les deux Varnas, correspondant aux classes cléricales et guerrières, les Brahmanes et les Kshatriyas, dans l'Inde du XIXe siècle, voire près de 20% si l'on ajoute l'ensemble des hautes castes, ce qui traduit des réalités humaines, économiques et politiques fort différentes. Voir graphique 1.1. Autrement dit, loin d'être figées, les frontières entre les trois groupes des sociétés ternaires font l'objet de négociations et de conflits permanents qui peuvent en altérer radicalement la définition et les contours. On notera aussi que du point de vue des effectifs des deux plus hautes classes, l'Inde et l'Espagne apparaissent finalement plus proches l'une de l'autre que la France et l'Espagne, ce qui suggère peut-être que les oppositions radicales parfois établies entre les différentes essences civilisationnelles, culturelles et religieuses, les castes indiennes jouant souvent le rôle de l'étrangeté absolue dans le regard occidental quand elles ne sont pas considérées comme le symbole du goût immodéré de l'Orient et du despotisme oriental pour l'inégalité et la tyrannie, sont en réalité moins importantes que les processus sociopolitiques et institutionnels permettant de transformer les structures sociales. Nous aurons également amplement l'occasion de voir que les estimations des effectifs de ces différents groupes, telles que celles que nous venons d'évoquer, sont elles-mêmes le produit d'une construction sociale et politique complexe. Elles sont souvent issues de diverses tentatives de puissance étatique en formation, monarchie absolue ou empires coloniaux, d'organiser des enquêtes sur le clergé et la noblesse, ou des recensements de la population colonisée et des différents groupes en son sein. Ces dispositifs inséparablement politiques et cognitifs s'inscrivent généralement dans un projet de domination sociale autant que de production de connaissances et de représentations. Les catégories utilisées et les informations produites nous informent au moins autant sur les intentions et le projet politique de leurs auteurs que sur la structure de la société en question. Ce qui ne veut pas dire que l'on ne puisse rien apprendre d'utile de ces matériaux, bien au contraire. Pour peu que l'on prenne le temps de les contextualiser et de les analyser, ils constituent des sources précieuses permettant de mieux saisir les conflits, les évolutions et les ruptures traversant des sociétés que l'on aurait bien tort d'imaginer statiques et sédimentées, et d'opposer entre elles plus que de raison. Par ailleurs, si les sociétés ternaires s'accompagnent souvent de diverses théories ethniques concernant les origines réelles ou supposées des groupes dominants et dominés, la noblesse est par exemple réputée franque, normande ou arienne en France, en Angleterre ou en Inde, alors que le peuple est supposé gallo-romain, anglo-saxon ou dravidien, théories qui ont été alternativement utilisées pour légitimer ou au contraire délégitimer le système de domination en place, y compris bien sûr par les puissances coloniales qui n'aimaient rien tant que de repousser les sociétés colonisées dans une différenciation radicale, de les assigner à une identité supposément sans rapport avec la modernité européenne, réputée dynamique et mobile, tous les éléments historiques disponibles aujourd'hui suggèrent que les mélanges entre classes étaient en réalité suffisamment importants pour que ces supposées différences ethniques disparaissent presque entièrement au bout de quelques générations. Sans doute la mobilité au sein des sociétés ternaires était-elle en règle générale quantitativement plus faible que dans les sociétés contemporaines. Encore qu'il soit difficile de faire des comparaisons précises et qu'il existe nombre d'exemples contraires fondés sur la promotion de nouvelles élites et de nouvelles noblesses en Inde comme en Europe, que l'idéologie ternaire ne fait que légitimer après coup, ce qui témoigne au passage de sa flexibilité. Mais en tout état de cause, il s'agit d'une différence de degré et non de principe qui doit être étudiée comme telle. Dans toutes les sociétés trifonctionnelles, y compris dans celles où la classe religieuse est en principe héréditaire, on observe des clercs issus des deux autres classes, des roturiers anoblis à la suite de leurs exploits au combat ou de leurs autres mérites et qualités, des religieux prenant les armes, et ainsi de suite. Sans être la norme, la fluidité sociale n'est jamais entièrement absente. Les identités sociales et les lignes de démarcation entre classes se négocient et se disputent dans les sociétés ternaires comme dans les autres.